Radio Campus et les radios partenaires présentent la Nuit européenne des chercheurs.
Le bâton, objet de ce parcours croisé. Mais par quel biais nous allons échanger autour de cet objet? Vous allez le découvrir tout de suite avec nos invités. Hélène Chauveau, vous êtes chercheur en géographie sociale de l'environnement à l'Université Lumière Lyon 2. Bienvenue.
Bonjour.
Merci.
Et puis également avec nous, Xing Xing Pan, vous êtes doctorante en sciences de l'éducation à l'Université Lyon Lumière, Lyon 2 également d'ailleurs. Hein, le hasard fait bien les choses finalement. Et puis l'objet, le bâton, eh bien nous y voilà, puisque Xing Xing Pan, vous vous intéressez à la formation des marionnettistes dans les théâtres de Guignol en France, et puis également les marionnettistes à Changshu, en Chine. Et là, le lien du bâton, il est évident. Donc, on va commencer par là, parce que je suis un petit peu fainéant le vendredi soir. Alors, justement, le bâton qui peut servir à fabriquer des marionnettes, mais là, c'est un peu simpliste. Xing Xing, finalement, il y a presque deux bâtons quand on parle de marionnettes.
Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. C'est vrai. En fait, j'ai fait une comparaison entre la marionnette de Guignol à Lyon et la marionnette de Zhangzhou en Chine. Le bâton, en fait, c'est le lien, c'est vraiment le point commun dans cette comparaison, parce que comme la plupart d'entre nous, en fait, connaissent, en fait. Le théâtre de Guignol, le Guignol tient toujours un bâton pour taper, juste pour même pour commencer le théâtre, en fait. En fait, il tape pour faire calmer la salle. Et aussi, en fait, pour moi, il y a deux bâtons pour les deux genres de théâtre de marionnettes, parce qu'il y en a un bâton visible, c'est les marionnettes, c'est les surdoux Guignol et les personnages dans le théâtre de marionnettes qui tiennent pour taper la réalité. Oui. Et puis il y en a autre bâton qui est invisible, en fait, c'est pour c'est sur les valeurs de marionnettes qui tapent vraiment sur ce qui ne va pas dans notre société, dans la pensée, dans l'esprit. Ok. Ouais, merci.
Les pratiques culturelles des jeunes dans le Brésil rural, c'est votre domaine de recherche, Hélène. Et le bâton, là aussi, on peut faire un lien, puisque le bâton au milieu rural, c'est évidemment le bâton du paysan qui guide, mais aussi ça peut être le bâton pour se défendre et parfois malheureusement le bâton aussi pour opprimer. Et du coup, au Brésil, notamment avec les sans-terres, là, cette symbolique du bâton, finalement, on y est ?
Tout à fait. Donc moi, je travaille sur les, donc comme vous l'avez dit, les pratiques culturelles des jeunes en milieu rural, et en particulier les jeunes qui sont membres du mouvement des paysans sans terre, qui est un mouvement social très fort au Brésil et qui a essaimé dans toute l'Amérique latine et le monde entier à travers Via Campesina. Et en fait, c'est un mouvement où les pratiques culturelles sont vraiment très importantes, et c'est là-dessus que j'ai travaillé. On y reviendra peut-être dans notre échange après. Mais du coup, le bâton, il est central au sens où c'est à la fois un outil de travail rural, voilà, pour mener les bêtes, par exemple. Mais du coup, comme tout outil de travail rural, il peut être transformé en outil de lutte, voilà, de lutte paysanne en particulier, pour voilà, se dresser contre l'oppresseur, qui en particulier dans les terrains où je travaille est représenté par la figure du propriétaire foncier, du propriétaire agricole de latifundio, donc de très grands domaines, qui est possédé par ces grands propriétaires qui ne permettent pas aux paysans d'exploiter et surtout d'être propriétaires de leur capacité de production. Donc ce bâton, il a aussi un double sens finalement. Il est à la fois un outil de travail et un outil de lutte pour ces personnes-là.
Xing Xing, la formation des marionnettistes est, j'imagine, différente entre la France et la Chine, entre le théâtre de Guignol et le théâtre à Changshu. Quelles sont peut-être les grandes différences d'abord, pour commencer, dans les grandes lignes?
Oui, en fait, c'est différent, mais il y a aussi des points partagés. C'est pour ça aussi, en fait, j'ai fait des comparaisons. C'est intéressant parce qu'au début, c'est comme la plupart des théâtres ou bien des arts populaires. Toujours au début, c'est de père au fils. C'est toujours entre familles, entre générations. c'est transmis comme ça. Mais en fait, les deux marionnettistes, les deux genres de, ben, les formations, pardon, des marionnettistes des deux pays, en fait, partagent un point commun, c'est il y a une tendance d'institutionnalisation. Et ça, c'est les points communs. Et puis, c'est aussi le point intéressant dans ma recherche. En fait, j'interroge sur la définition de théâtre populaire. Si c'est populaire, est-ce que cette institutionnalisation est contradictoire avec, en fait, le caractère populaire? Ouais.
Est-ce que, Hélène, justement, les pratiques culturelles, ce sont finalement aussi bien ce qui est proposé? S'approprie pardon, des outils pour être aussi acteur culturel. Est-ce qu'on retrouve ça au Brésil ?
Tout à fait. Donc, notamment dans les pratiques sur lesquelles j'ai pu travailler, il y a le théâtre de l'opprimé, qui est voilà, un type de théâtre fondé par Augusto Boal, qui est un dramaturge brésilien, et qui part vraiment de l'idée que chacun, chacune doit aussi être acteur, actrice du spectacle, et que ce théâtre peut permettre, au-delà d'être une représentation artistique, qui a ses vertus par ailleurs, mais qui peut avoir aussi une portée d'éducation populaire et donc aussi de résolution des problèmes sociaux, parce qu'en jouant des scènes qui s'approchent du quotidien des personnes, en jouant des conflits, notamment en jouant des débats entre les communautés, ça peut permettre de trouver peut-être des résolutions, ça permet aussi ce qu'on appelle l'empowerment, donc l'idée de gagner confiance aussi en soi en tant qu'orateur, en soi en tant qu'acteur social, acteur de sa vie. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des parallèles avec ce que ma collègue dit, puisque il y a aussi une institutionnalisation de ce type de pratique culturelle qui peut nuire à leur dimension populaire et contestataire, mais qui est aussi une reconnaissance finalement de la valeur culturelle de ces pratiques, qui est loin d'être toujours reconnue, en particulier quand elles sont issues de l'espace rural, qui est un espace qui est particulièrement stigmatisé dans nos sociétés, et voilà, qui sont très urbanophiles, on va dire, et qui glorifie notamment les pratiques culturelles nées de la ville, qui serait l'espace absolu de l'art et de la culture, alors que le milieu rural peut aussi produire évidemment des formes culturelles très intéressantes et très différentes, même s'il y a des ponts et des allers-retours permanents entre les territoires pour fonder des pratiques culturelles. Mais dans le milieu rural, il y a aussi des pratiques culturelles propre, forte, et qui porte une voix différente de ce qui peut être créé en ville.
Donc cette institutionnalisation permet finalement de faire perdurer ces traditions culturelles, mais est-ce qu'elle ne risque pas, malgré tout, aussi de rendre ces spectacles, ces propositions un peu ludiques, divertissantes, et du coup peut-être un peu moins chatouilleuses pour les élites ?
Tout à fait. Alors, c'est vraiment un enjeu très intéressant, et je pense que Xing Xing aura plein de choses à dire aussi là-dessus. Mais par exemple, une des pratiques que j'ai étudiées qui a été très institutionnalisée, c'est les pratiques de rodéo des gauchos. Donc, les gauchos sont un peuple d'éleveurs de bétail qui habitent donc le sud du Brésil, l'Uruguay et le nord de l'Argentine. Et une pratique culturelle très commune dans ces communautés-là, ça va être le rodéo. Alors, c'est pas une pratique particulièrement contestataire, mais c'est une pratique identitaire forte de ces populations-là. Et en fait, en faisant mes recherches, je me suis aperçue que les jeunes qui aujourd'hui, en 2020, pratiquent ces pratiques-là, sont persuadés de pratiquer quelque chose qui est totalement ancestral, quelque chose de très ancré dans la tradition rurale et paysanne, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui a été un peu recréé et réinventé par des urbains pour valoriser donc cette culture agricole et cette culture de l'élevage. Mais qui en fait a été un peu réinventé. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment un problème, cette réinvention, ou pas? Parce que réinventer les pratiques culturelles, c'est toujours inventer des pratiques culturelles. Donc finalement c'est beau aussi de se dire que on peut créer sans cesse des pratiques culturelles avec des référents variés et voilà, dans des objectifs aussi variés.
D'un folklore qui pourrait être ringard chez nous, là-bas, c'est finalement une manière aussi de faire perdurer la culture.
Tout à fait, oui. Et puis le folklore a au Brésil une dimension très contestataire aussi. Voilà, on a souvent l'image en France que les cultures régionales seraient un petit peu surannées, un petit peu le fait de groupes très conservateurs. Et en fait, là-bas, elles sont beaucoup plus le fait de groupes très contestataires qui, par ces pratiques dites folkloriques, s'opposent à l'hégémonie, et notamment l'hégémonie urbaine et des classes supérieures.
Alors, Sing Sing, oui. Justement, on parlait d'une forme de folklore pour le Brésil. Est-ce qu'aujourd'hui, les marionnettes, aussi bien en France qu'en Chine, on est dans du folklore où il y a encore réellement une pratique ancré volontariste?
En fait, quand j'ai entendu Hélène, en fait, quand j'entendais Hélène, en fait, ça me rappelle vraiment ce sujet. En fait, en Chine, normalement, les marionnettes, au début, c'est né dans la campagne, c'est joué dans la campagne, et c'est aussi pour en fait prier du bonheur, la richesse. Au début, c'était pour faire plaire aux dieux, faire plaire en fait surtout dans les cérémonies funérailles. Oui, et maintenant, comme c'est plutôt institutionnalisé et c'est plutôt contrôlé par l'État, ça devient un peu plutôt les troupes gouvernementales, officielles. En fait, maintenant, il y a un problème, c'est que ça ne joue plus pour le peuple, ça ne joue plus pour les rituels, les folklores avant, c'est plutôt pour faire plaisir aux petits, aux gens qui vivent dans la ville. C'est plutôt pour gagner l'argent, pour montrer en fait la richesse dans ce côté-là. Donc je crois que soit en France et en Chine, en fait, le théâtre, surtout les deux théâtres de marionnettes que j'étudie, en fait, perdent de plus en plus leur côté en fait folklorique, pardon. Oui.
Et du coup, perdre, ce que évoquait aussi Hélène, une manière de s'approprier et de dénoncer, de militer, de revendiquer, puisque le théâtre de Guignol, vous le disiez d'ailleurs, a aussi changé finalement de discours, d'un spectacle aujourd'hui peut-être plus pour les enfants. Ce n'était pas le cas il y a encore quelques décennies.
En fait, c'est vrai, parce qu'au début, les deux genres de théâtre de marionnettes, en fait, au début, c'était pour plutôt critiquer l'actualité, pour critiquer en fait la politique qui est à l'époque, et même maintenant, en fait, il y a une tendance en fait de perdre cet aspect-là. En fait, c'est plutôt pour faire rire aux enfants, ça devient plutôt des marionnettistes plutôt ludiques, en fait. Ils ont perdu ce côté-là.
Et est-ce qu'à Sangsu, il y a un renouveau finalement de la marionnette, comme au Brésil finalement on réinvente des pratiques? Est-ce qu'il y a une volonté de réinventer cet art de la marionnette?
Oui, exactement. En fait, ça fait partie aussi de la transmission. Et maintenant, pour faire vivre au théâtre de la marionnette de Changzhou, donc en fait, maintenant ils s'associent un peu comme nous aujourd'hui avec le média, et aussi ils ont fait des dessins animés avec. Donc en fait, ils cherchent toujours leur piste pour survivre. Donc pour moi, c'est un genre d'innovation, mais d'autre côté, en fait, on doit toujours questionner en fait avec leur définition populaire. Donc oui, il y a ce côté.
Et pour finir cet échange croisé, et on va être à l'heure, donc on n'aura pas de coup de bâton, ça tombe plutôt bien. Est-ce que vous avez rapidement appris l'une et l'autre quelque chose du travail de l'une et de l'autre, justement? En un mot, deux mots. Je sais, c'est dur.
Moi, j'étais ravie de voir que voilà, il y a d'autres types, supports de pratiques culturelles et d'autres exemples de pratiques qui finalement montrent aussi cet enjeu d'institutionnalisation et de réappropriation aussi de pratiques culturelles qui sont nées dans un territoire, dans un cadre social particulier, et qui en fait se retrouvent appropriées, alors pour le meilleur et pour le pire quelque part, par d'autres territoires et d'autres classes sociales parfois. Du coup, ça nous rappelle que la culture est un objet à la fois très mouvant et en même temps que voilà, c'est toujours intéressant de regarder le parcours de l'œuvre culturelle qu'on a en face de soi. Ça nous apprend toujours beaucoup de choses.
Sing Sing, un
oui.
mot.
Oui, pour moi, en fait, c'est très, très riche pour moi parce que moi, je fais une recherche sur le continent, toujours des deux points de notre continent, Asie-Europe-européen, pardon, je ne sais pas comment dire, mais avec Hélène, en fait, il y a beaucoup de choses partage et c'est aussi, ça correspond aussi à notre sujet de voyage, en fait. Le voyage, même si on ne bouge pas, on reste là, mais c'est un voyage culturel qui est très riche, on partage beaucoup de points. Et puis ça, c'est avec le bâton, ça peut être un bâton à taper, ça pourrait aussi être un tampon de pèlerinage, de voyager, d'avancer, de marcher plus loin pour se connaître et pour connaître les autres. Je crois que ça, c'est le point vraiment important pour nous, pour aujourd'hui, pour les jeunes aussi.
Donc nous sommes bel et bien dans la thématique de cette nuit des chercheurs, notamment ici à Saint-Étienne. Merci Hélène et Sing Sing de nous avoir accordé du temps dans ce parcours croisé.
Okay, merci beaucoup. Oui, merci.
Thank you. Radio Campus 88.3 FM.
Alors, la danse commence.
Oui, monsieur.
Laissez-nous nous reposer un moment.
Calmez-vous, essayez de garder votre sang-froid.
Et la possession commence. Lentement, par le pied gauche, puis par le pied droit. Elle monte par les mains, les bras, les épaules et la tête.
www.orléans.radiocampus.org.
Le bruit ne s'arrête jamais.
Les cahiers de l'emploi by Connect Job sur Radio Campus 88.3 FM. Infos, conseils, bons plans et astuces. Les cahiers de l'emploi by Connect Job, échanges et conseils autour de l'emploi. Chronique animée par Allégué M-Fam du cabinet RH Connect Job sur Radio Campus 88.3 FM.
Bonjour et bienvenue dans les cahiers de l'emploi by Connect Job. Bonjour Allégué.
Bonjour Viviane.
C'est la reprise.
Et oui, c'est la quatrième saison, tu te rends compte, Viviane, des cahiers de l'emploi by Connect Job. Je suis ravie, ravie. Et d'ailleurs, je suis d'autant plus ravie qu'on va démarrer cette émission avec le sourire. Mais je te laisse déjà dire un petit mot.
Avec le sourire de Catherine Godard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sourirologue.
Oui, voilà, c'est ça. Je pense que nos auditeurs vont se poser la question de qu'est-ce que c'est que sourirologue. Et du coup, je les invite à rester tout au long de l'émission. Nous allons en parler avec justement de la positive attitude, parce que Catherine Godard, c'est ça son métier, positive attitude, c'est donner l'énergie, c'est positiver. Donc ça tombe bien pour une reprise. Bonjour Catherine, bienvenue sur les cahiers de l'emploi by Connect Job. Et nous allons commencer quand même par te demander, en quelques mots, de te présenter. Qui es-tu ?
Bonjour Allégué, déjà c'est super sympa de m'inviter. Pour moi c'est une première, la radio, donc c'est génial.
Ah bah voilà,
à chaque fois. Dans un studio.
Première édition de quatrième saison avec Catherine, pour une première, c'est génial.
C'est une journée, voilà, c'est super.
Voilà.
Alors pour me présenter, écoute, moi je suis une femme, une mère, une fille, une collègue, enfin bref.
Tu as porté toutes les casquettes.
Voilà, je suis un petit peu madame tout le monde. Ouais. Et puis au niveau pro, en fait, depuis quelques temps, je suis entrepreneur dans le Loiret. Mmh. Et peut-être un peu visionnaire et audacieuse, mmh, parce que sourirologue, c'est un métier que je me suis créé, en fait.
Voilà.
Donc je suis un petit peu toute seule pour le moment. Mais
t'as
on va en parler.
C'est pas mal ça.
Ouais, on va en parler ensemble. Okay. Et puis sinon, moi, je suis plutôt d'un naturel optimisme. Je suis aussi assez atypique dans mon fonctionnement, dynamique, spontané, authentique, hypersensible, engagée,
voilà,
et puis aussi curieuse et résiliente.
Voilà, bah c'est très bien.
Et ce que j'aime dans la vie, parce qu'en fait, c'est ça qui nous définit, en fait, c'est nos appétences, ce qu'on aime dans la vie. C'est ça qui fait notre différence, en fait. Et ce que j'aime dans la vie, c'est des moments de calme et d'introspection. Donc, je marche dans ces moments-là, je fais du yoga, de la lecture. J'observe beaucoup et puis j'aime découvrir ce qui se passe autour de moi. Et puis, j'aime les moments de convivialité en privé ou des moments de convivialité professionnelle, comme celui qu'on est en train de vivre ensemble.
Exact.
Et j'aime transmettre mon expertise, en fait, ce que j'ai découvert de la vie. Et puis, ce que j'aime aussi, et là, je crois que c'est mon kiff, et c'est pour ça que je fais ce job, c'est de permettre aux autres de s'épanouir individuellement et collectivement.
Exact, oui, bah, je vois bien que justement ton parcours est hyper riche,
ouais,
et c'est un peu pour ça qu'on a souhaité aussi que tu viennes parler de toi à l'antenne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont, je pense, un panel comme toi, hein, de plusieurs casquettes, et qui parfois se disent « je suis spéciale, donc un peu bizarre », alors que toi, tu en fais une force. Je suis différente, comme tu l'as dit, mais ça me permet effectivement de m'enrichir et aussi de permettre aux autres de s'épanouir à côté de à partir de tout ce que j'ai eu comme expérience et de tout ce que je peux apporter aussi comme expertise. Donc ça, c'est génial, oui.
Et si je peux rajouter un truc, en fait, ça, je vous ai parlé de ce que mes traits de caractère, qui sont des choses plutôt naturelles et innées, mais aussi j'ai appris des choses, et c'est sûrement ça que je transmets dans mes accompagnements, c'est que j'ai appris l'audace, j'ai appris la confiance, et j'ai appris aussi l'assertivité. L'assertivité, c'est communiquer en se respectant et en respectant l'autre pour pouvoir poser ses limites. Et ça, j'avais vraiment besoin de l'apprendre. Et on en parlera tout à l'heure.
Oui,
un
on
peu
va
plus.
En parler, mais j'aime bien les mots que tu évoques, l'audace, la confiance en soi. Ce sont les mots aujourd'hui qui sont de vrais moteurs pour tout, pour justement engager un parcours. On va parler de ton parcours, de tout ce que tu as appris, de tout ce que tu as acquis comme expérience et que tu souhaites d'ailleurs transmettre. Mais effectivement, aujourd'hui, on a le sourire d'autant plus facilement, pour reprendre aussi l'intitulé de ta profession, parce qu'on a confiance en soi, parce qu'on a de l'audace, parce qu'on est enrichi et qu'on a envie de transmettre. Ce sont des moteurs pour avoir le sourire. Alors, pour aller plus loin, est-ce que tu peux nous expliquer, présenter ton parcours? Comment on fait pour passer de tout ça à sourirologue?
Eh bien, écoute, le parcours, on va passer par plusieurs stades. D'abord, j'ai une scolarité assez difficile parce que je suis dyslexique et hypersensible. Donc, du coup, l'apprentissage était compliqué pour moi. Par contre, j'ai quand même persévéré. On a parlé tout à l'heure de résilience. Donc, même dans la difficulté, j'ai persévéré. Et puis, du coup, je suis allée jusqu'à un bac technique. J'ai fait un bac compta. Et puis, je suis allée jusqu'à un bac plus 2 en informatique de gestion.
Très bien.
Comme on est sur les cahiers de l'emploi, ce n'était pas forcément à 18 ans ce que j'avais envie de faire. Je voulais faire de la RH. Mais je n'ai pas été prise. Donc, j'ai fait de l'informatique.
Alors, quand tu dis que tu n'as pas été prise, tu as candidaté à une offre ou à une formation?
En fait, j'ai candidaté à un DUT.
D'accord.
Et puis, en fait, non, ce n'est pas vrai. J'ai été prise la première année parce que j'avais un dossier super motivé.
D'accord.
Mais je n'ai pas eu mon bac.
Ah, bon.
Ah, ça arrive. Oui. Donc, l'année d'après...
Le César pour pouvoir poursuivre, c'est d'avoir le bac.
L'année d'après, j'ai repassé mon bac que j'ai eu. Et puis, par contre, j'ai pas eu la formation que je voulais. Mais c'est pas grave. J'ai quand même eu un BTS en informatique de gestion. Et après, je suis partie dans le pilotage de projets informatiques pendant 20 ans, dans le monde de la protection sociale. Et là, j'étais salariée. Et depuis 2018, en fait, j'ai eu besoin de changer d'air et peut-être de me rapprocher de mes envies de départ, de mes appétences d'être dans la relation humaine. Et c'est là où, en fait, je suis repartie me former au coaching et à l'accompagnement.
D'accord.
Depuis 3 ans, je suis entrepreneur et je suis sourirologue.
D'accord.
Et sinon, personnellement, j'ai eu d'autres challenges à relever. Donc, je vous expliquais que ma scolarité était assez difficile. Et du coup, ce qui a généré un manque de confiance en moi et mon hypersensibilité, ces émotions qui vont dans tous les sens, étaient très difficiles à gérer. Je ne savais pas que j'étais hypersensible. Ça partait dans tous les sens. C'était assez compliqué à gérer. Et ces émotions, cette hypersensibilité et ce manque de confiance ont fait que j'ai commencé à faire de plus en plus de charges mentales et de charges émotionnelles. Et au niveau de mon emploi de l'époque, je me suis épuisée. Je me suis grillée, comme on dit. On parle de burn-out. Oui. Donc j'ai testé plein de choses, des expériences extraordinaires.
Y compris le burn-out.
Burn-out,
mais qui ne sont pas des cas isolés. Ben non, bon, il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense.
Et ce n'est pas un mauvais management ou de la charge de travail qui a généré ces burn-out, mais plutôt de la charge mentale. C'est de vouloir être parfaite et d'avoir l'impression de jamais faire assez bien. Et là, en fait, je suis partie dans un cercle vicieux.
Est-ce qu'on peut dire que ce que tu as tenté de faire, c'est tenter de ne pas être vraiment toi, mais de faire ce que tu croyais être bien?
C'est exactement ça, en fait. Je n'étais peut-être pas sur le bon chemin, en fait. Et je voulais répondre aux attentes des autres en oubliant mes besoins à moi. Et du coup, dans cette entreprise-là, qui est une super entreprise, hein, je vous dirai pourquoi après, bah, j'ai fait 5 burn-out. Enfin, j'ai testé toutes les formes. Hein. Burn-out, bore-out, brown-out. Donc le burn-out, on est épuisé. Le bore-out, on n'a plus envie de faire les choses. Et le brown-out, ça n'a plus de sens de les faire.
D'accord.
Donc c'est à ce moment-là où, en fait, j'ai réfléchi à un autre projet. Et je me suis rapprochée de mes envies de départ, aller dans l'accompagnement et travailler avec lui.
Alors, si je peux t'interrompre, c'est très intéressant tout ça parce que, voilà, tu as testé plein de choses, tu es passé par plusieurs projets jusqu'à ce stade-là et tu es rentré en entreprise en étant dans l'informatique où tu as dit effectivement que tu t'es moins écouté et tu as tenté de faire en sorte que les attentes des autres soient satisfaites. Et je pense que ça fait partie des petites réalités qu'on néglige et qui sont importantes. D'ailleurs, tu parlais des cahiers de l'emploi. C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis contente aussi que tu sois notre invitée aujourd'hui, parce que les cahiers de l'emploi, c'est un peu donner aussi un mode d'emploi professionnel. Et ce que tu viens de nous dire est hyper intéressant, parce que le meilleur des apprentissages, à mon avis, c'est déjà d'apprendre à se connaître.
Exactement.
Et je pense que ça, c'est vraiment le point d'appui central pour pouvoir cheminer convenablement. Donc, je te laisse poursuivre, mais je tenais à rappeler que, effectivement, on a tendance parfois à parler de diplôme, de parcours professionnel, de formation, mais on ne met pas beaucoup l'accent sur la connaissance de soi dans ces parcours-là.
Et c'est super intéressant ce que tu dis. Tout à l'heure, j'insistais sur le fait qu'est-ce que j'aime, quelles sont mes appétences. Et c'est revenir à ça de temps en temps. Mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment j'ai envie de le faire? Est-ce que je veux travailler dehors? Est-ce que je veux travailler dedans? Est-ce que je veux travailler toute seule? Des choses qui paraissent assez simples, mais qui sont super importantes. Je vous ai dit aussi que j'avais un cerveau pop-corn, c'est-à-dire que...
J'aime bien les expressions.
Quand j'ai une idée...
À la fin de cette émission.
Oui, c'est ça.
Les idées pop-corn.
Quand j'ai une idée, ça fait « pof » dans ma tête et ça prend toute la place. Et là, il y a un truc qui vient faire « pof » et je ne sais plus où j'en étais.
Oui, mais on peut reprendre le fil de toute façon de l'échange global. C'est-à-dire que ton parcours t'amène à effectivement plusieurs projets. Et ce que j'aime beaucoup aussi, justement, dans ce que tu as dit, c'est que tu t'es recentré à un moment donné sur tes envies de départ. Et c'est encore une fois ce type d'appel qu'on occulte. Mes envies, quelles sont-elles? Quels sont-ils, pardon? Est-ce que j'ai une envie, pardon? Quelles sont-elles?
J'ai tâtonné, parce qu'en fait, je n'ai pas dit, mais j'ai 50 ans l'année prochaine. En 2022, j'ai 50 ans. Wouh, je suis trop contente.
Bientôt, à Thursday.
Oh yes. et en fait, j'ai tâtonné pendant un paquet de temps. Si j'ai fait 5 burn-out, c'est parce que j'ai à chaque fois changé de poste. En interne.
D'accord.
Parce que cette entreprise, donc, m'a apporté l'opportunité de me former au fur et à mesure. Donc, d'abord, je me suis formée sur l'assertivité, me respecter plus dans ma communication. Puis après, j'ai appris à mieux communiquer. Puis après. Donc, en fait, j'ai tâtonné pour arriver à ce que je suis aujourd'hui. Et toutes les expériences que j'ai eues, que ce soit dans le pilotage du projet informatique, en fait, tu sais que l'informaticien est résilient.
Ben oui.
Tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, il écoute toujours le besoin des autres pour y répondre. Donc, tu vois, j'étais formatée pour faire de la charge mentale. Il écoute le besoin des autres. Et en fait, quand il fait un programme, il va réfléchir à toutes les combinaisons possibles. Donc, il est toujours en quête d'une solution. Donc, ma formation d'informatique était géniale parce que ça m'a apporté plein de choses. Et après, piloter un projet, tu pilotes des hommes, tu pilotes... Donc, c'était aussi super intéressant. Tu apprends à communiquer, tu apprends plein de choses. Et du coup, ça m'a amené gentiment à revenir vers ce que je voulais faire au départ. Oui. Mais je pense que ça m'a enrichi tout le long du trajet. Et y a un mot que j'adore, c'est la maturité. Je pense que quand on est à l'école, on a besoin d'apprendre des choses. Comment et à quoi ça va servir, on ne sait pas vraiment. Donc on fait comme tout le monde, on suit un cursus et puis on va là où on peut aller. parce que moi j'avais la possibilité de faire ça à ce moment-là et peut-être pas autre chose. Donc c'était le chemin que je devais faire. Et ce que j'aime bien, c'est derrière ce chemin, même s'il a été de temps en temps chaotique, c'est qu'il y a de la beauté cachée derrière chacune de nos pires expériences. Mmh. Et c'est trouver la beauté cachée derrière l'expérience qui permet de renforcer en fait son potentiel.
Alors voilà, on est en pleine démonstration de ce que Catherine Godard fait comme métier, c'est-à-dire que quelles que soient les expériences, quelles que soient effectivement les situations vécues, on arrive à trouver le positif et on avance. Et on essaye, bien évidemment, de prendre tout ça avec le sourire. Donc, ça, c'est génial. Donc, moi, je reprends le fil hein, de ton parcours. Effectivement, tu as parlé d'apprentissage, parce que l'apprentissage commence effectivement par l'école. L'apprentissage se poursuit aussi dans le monde professionnel, tu viens de le dire. Hein. On peut avoir la possibilité de continuer à se former en changeant de poste, en découvrant d'autres univers. Donc, les apprentissages sont essentiels. Mais derrière ces apprentissages, la vraie question, c'est pourquoi ? Et je crois que c'est un peu ça qui amène tout le monde à un moment à se poser cette question. Pourquoi je fais tout ce cheminement? Pourquoi je fais tous ces apprentissages? Et là, je pense que tu vas nous dire pourquoi tous ces apprentissages ont été bénéfiques pour toi. Pourquoi tous ces apprentissages t'ont amené à penser sourirologue? Et pourquoi tous ces apprentissages t'ont appris à mieux te connaître? Puisque, effectivement, c'est un peu ce que tu es en train de nous démontrer avec ce parcours plus tôt. Je redis encore une fois le mot d'ordre hein, dans notre émission positif. Alors, donc on arrive à des apprentissages qui te font maturer, qui te permettent effectivement de te découvrir. Et est-ce que tout ça, c'est ce que tu appelles ta mission de vie que tu découvres à la suite de toutes ces expériences
hein? Ouais, tu sais, en fait, sourirologue, ça vient de d'une étude que j'ai lue en 2017.
On va en parler ensuite, hein, parce qu'il me semble que tu vas nous expliquer pourquoi tu as choisi ce nom et pourquoi tu en viens. Moi, j'aimerais terminer vraiment
sur
avec
la mission
ton
de vie. Aujourd'hui, ma mission de vie, ce serait, tu sais, des fois, il faut être un petit peu comme, toute comparaison gardée, bien sûr, mais ambitieux.
Audacieux même.
Du coup, maintenant, je dis que j'ai envie de faire sourire l'économie du Loiret. Et
c'est une réelle ambition, l'économie du Loiret.
Oui, parce qu'en fait, tu vois, aujourd'hui, avec Internet, tu peux être partout. Et moi, je suis bien dans le Loiret, déjà. Mm-hmm. Tu vois, si j'arrive à être le petit colibri qui permet de faire... en local quelque chose, ben je trouve ça déjà génial. Et faire sourire l'économie, c'est que comme j'ai un petit peu eu un parcours... faire sourire l'économie, c'est permettre de s'épanouir en fait dans sa vie professionnelle. Et quand tu t'épanouis dans ta vie professionnelle, le matin tu te lèves avec plaisir dans
tu
tes échanges,
avec bonheur.
Tu te lèves de bonne heure et de bonne humeur. Quand t'es bien dans ton job, tu bosses mieux. Quand t'es bien avec tes collègues, tu bosses mieux. Quand tu sais pourquoi tu bosses, tu bosses mieux. Et puis, si on fait sourire l'économie du Loiret, on rend le Loiret plus attractif. Si on rend le Loiret plus attractif, il est probable que...
On attire au-delà du Loiret. Qu'on puisse rayonner encore plus loin.
Que les gens investissent dans le Loiret. Exact. Et du coup, ça crée c'est un cercle vertueux.
Quelle belle mission.
Et puis tu vois, tu m'aides parce que déjà en parlant, tu sais, un rêve, un projet, faut en parler pour que ça se réalise. Oui. Donc en parlant, tu vois, si on fait sourire les gens qui nous écoutent, j'ai presque fait sourire l'économie du Loiret.
Mais je suis justement, je pense que si on a l'antenne aujourd'hui, c'est pour faire rayonner effectivement cette mission qui est la tienne aujourd'hui, une belle mission. faire sourire le Loiret. Et l'avantage des ondes, comme tu le sais, c'est que les ondes dépassent les murs. Et donc, je pense que raisonnablement, on va pouvoir, à la diffusion de l'émission, faire sourire un peu au-delà de Radio Campus et les cahiers de l'emploi by Connect Job. Alors, moi, je trouve très, très intéressant l'approche que tu as, c'est-à-dire faire sourire l'économie du Loiret, en expliquant comment tu vois la diffusion de ce sourire. C'est très concret, hein, parce que ça peut paraître effectivement un peu, bon, on va dire un peu utopique, ce que tu viens d'expliquer,
ouais,
faire sourire le
Loiret,
mais tu viens de l'expliquer, je vais reprendre en quelques mots ce que tu viens de dire, que je trouve essentiel. Tu dis, si on arrive à partir au travail tous les jours en étant de bonne humeur, si on arrive à être au travail en étant de bonne humeur, etc. Mais et oui, c'est l'économie, tout ça. Les acteurs qui travaillent, puisque tu parlais du travail, sont des acteurs de l'économie. Et si ces acteurs-là, effectivement, ne sont pas dans une posture positive, optimiste, la productivité ne peut pas être effectivement au top de son sourire. Je suis entièrement d'accord avec toi. Donc, vraiment, je pense que nos auditeurs sont encore là et attendent la suite. Et donc, à mon avis, on va poursuivre. Je vais te donner simplement la possibilité de poursuivre, hein, mais tu fais la transition comme tu le sens. Moi, je suis vraiment tout à l'écoute, très intéressée. Donc, tu vas nous expliquer pourquoi, du coup, parce que là, on a déjà un début d'explication, pourquoi, du coup, tu t'es appelée sourirologue et quelle est ta mission ?
Ouais, et ben tout à fait. Je vais te dire tout, la vérité vraie.
Dis-moi tout, parce que moi, je veux savoir la fin.
En fait, en 2018, donc, je décide de me reconvertir et je pars en formation de coach. Et quelques temps avant, il y avait une étude qui était sortie en 2017 qui disait que 85% des métiers de 2030 n'existent pas aujourd'hui.
Et c'est encore d'actualité.
Voilà. Alors je me suis dit.
On est en pleine mutation. Hein.
Et ben, je me suis dit que du coup, tout était permis et qu'il était urgent de rêver plus grand.
Et d'avoir même l'envie de créer son propre métier de demain.
Exactement. En fait, j'ai voulu me faire un job sur mesure. Et puis, donc, je fais ma formation de coach. Et puis, en fait, à la fin de cette formation, on me demande, mais quel type de coach tu vas être ? Et là, j'en sais rien. Je ne sais pas qu'est-ce qui fera la différence. Aucune idée. Et il y a un exercice que j'adore dans le coaching qui s'appelle le 360. Le 360, c'est demander aux gens qui t'entourent, alors dans ton domaine, dans le domaine privé ou dans le domaine professionnel, quels sont tes talents.
Exact.
Parce que je ne sais pas si tu sais, mais un talent, c'est quelque chose qui est tellement naturel pour toi que tu ne le vois pas.
C'est ça.
Donc tu.
C'est inné.
C'est inné. Donc en fait, c'est le regard des autres en miroir qui va te permettre de découvrir ton talent.
Exact.
Donc je fais cet exercice pour dire, si je suis coach, pourquoi on va venir me voir ? Quel est mon talent ? Et là, les gens qui m'entourent me disent ton sourire. Et là, je me dis, ouais, super. Alors attends, tout le monde sourit. C'est quoi cette histoire ?
Et pourquoi le mien ?
Et pourquoi ? Et j'ai quand même réfléchi quel symbole il y avait derrière le sourire. Et ça m'a demandé un petit peu de temps. Et puis j'ai vu que, en fait, quelqu'un qui sourit, c'est quelqu'un qui est en confiance avec l'autre, qui est en confiance avec la situation, qui va être plutôt confiant dans la vie. Donc, c'est quelqu'un de plutôt optimisme, qui est dans l'ouverture aussi. Et le sourire, ça montre une énergie positive.
Exact.
Ça crée de l'accueil. Et des fois, même un sourire, ça peut être audacieux. Parce que j'ai des amis qui disent « Ah, à Paris, tout le monde fait la tronche ». En fait, moi, comme je souris quand je suis à Paris, je suis toujours remerciée par un sourire. Donc c'est audacieux, en fait, de sourire.
Alors, de plus en plus intéressant, parce que c'est très, très cohérent ce que tu nous présentes comme trajectoire. Effectivement, en général, et ça reprend d'ailleurs le point que j'ai évoqué avec toi tout à l'heure, qui es-tu ? La fameuse phrase qu'on devrait se poser tous, voilà, tu viens de le dire, hein. C'est quoi ton talent en interrogeant les proches, milieu privé, professionnel. Mais de toute façon, on a besoin, en permanence d'aller questionner justement les autres pour savoir qui finalement on est, mais en termes de potentiel, pas qui on est en termes de diplôme, en termes de pratique, mais le questionnement revient systématiquement sur la personne. Et moi, je trouve aussi très intéressant de ce que tu dis pour, quand tu as décidé de choisir le nom de sourirologue. Tu t'es appuyé aussi sur l'actualité, c'est-à-dire que finalement, un projet, les trajectoires, la personnalité, ça reste quand même quelque chose en lien avec le contexte socio-économique, culturel, peu importe, mais en tout cas son contexte de vie. Et moi, je pense que ça, c'est quelque chose aussi qui peut bien résonner dans notre émission « Les cahiers de l'emploi by Connect Job ». Les parcours aujourd'hui sont des parcours qui ne sont pas complètement aboutis puisqu'on est en mutation permanente, comme tu le dis, 85% des métiers de 2030 n'existant pas encore. C'est le moment, mais alors par excellence, pour complètement explorer tous les univers. Ah, autant exactement. Avant, on aurait tendance à croire que voilà, il faut absolument être... je ne sais pas, dans des métiers très connus, parce qu'on avait, je dirais, une classification, on connaissait tous les métiers.
Tu sais, on voulait être pompier, on voulait être maîtresse,
on voulait être secrétaire, être avocat. Bon, en tout cas, c'était des métiers qui étaient presque figés dans le marbre. Alors que là, la période, et je pense qu'on va d'autant plus être positif aujourd'hui avec toi, pour ceux qui nous écoutent, qui se disent « je n'ai pas encore trouvé ce que je veux faire », on a un bel exemple. Profiter de cet inconnu des 85% des métiers qui ne sont pas encore connus pour éventuellement en inventer, en s'appuyant malgré tout quand même sur des réalités. Il ne faut pas être complètement hors sol. Et voilà, donc tu as interrogé, tu t'es formé. Il y a quand même aussi des choses concrètes à mettre en place. Il ne faut pas simplement planer et puis se dire j'ai envie, comme on voit aujourd'hui, j'ai envie d'aller sur la Lune et puis c'est génial. Oui, même ces projets-là se construisent, se travaillent.
Je pense qu'on parle beaucoup d'être soi, même professionnellement et en collant à ton potentiel et à tes appétences. Tu peux créer quelque chose, tu peux même créer un besoin en fait. C'est ce que je faisais en entreprise en fait. Si ça ne fonctionnait pas, je regardais ce qu'il y avait dans l'entreprise et je regardais où je pouvais me positionner et quelle formation il serait intéressant de faire. Donc en fait, dans cette entreprise, j'ai changé plusieurs fois de poste. Je me suis souvent réinventée. Et j'ai toujours évolué. Et tout à l'heure, tu disais, l'apprentissage, c'est toute la vie, en fait.
Exact. On en arrivait à parler de formation tout au long de la vie.
Mais oui. Et c'est ça qui nous fait avancer. C'est ça qui nous fait maturer, comme tu disais tout à l'heure.
Ce sont tes mots.
Oui. Bah, écoute, j'aime bien mes mots.
Je ne fais que répéter ce que tu nous dis de très intelligent.
Et ce que justement, il y a une autre chose que tu disais, c'est le feedback. Le feedback, en fait, ça peut faire peur quand on n'est pas en confiance, quand on n'a pas confiance en soi.
Et quand on n'est pas dans un environnement bienveillant aussi.
Mais même des fois, tu es dans un environnement bienveillant, mais toi, si tu n'as pas confiance, tu sens de l'hostilité alors qu'il n'y en a pas forcément.
Malgré la bienveillance des autres ?
Ouais.
D'accord.
Parce que si tu n'as pas confiance et que tu penses que si tu penses que t'es nul, ce qui était ce que je ressentais une période, le regard des autres était très compliqué pour moi parce que j'avais peur d'être jugée. Pour aller chercher un feedback, faut effectivement être en confiance avec les gens qui vont te faire le feedback et être prêt à accepter ce qu'on va te dire. C'est toujours, tout à l'heure je parlais de beauté cachée derrière les pires expériences, des fois dans les feedbacks il n'y a pas que des trucs qui sont confortables, mais par contre c'est des pistes d'amélioration. On n'est pas obligé de toutes les explorer, mais ce que tu vas explorer, peut-être que ça va te donner
des atouts
supplémentaires.
Alors, c'est très bien parce que tu me dis qu'effectivement, suite à ce feedback, ce cheminement, il a fallu en faire quelque chose. Tu arrives à te positionner en te disant mon sourire, je peux en faire un métier, sourire devient sourirologue. Moi, je dis idée de génie. Alors, mais tu en fais quoi? Alors, quelle est ta cible?
Ma cible, eh ben écoute, en fait, quand j'ai eu cette idée,
faire sourire l'économie du Loiret,
c'était pas très clair quand même, hein, mais à force de rencontrer mes clients, de comprendre leurs difficultés, maintenant je sais mieux en parler. Ma cible, en fait, ça va être d'accompagner plutôt des entrepreneurs, des dirigeants et des managers à avoir une posture et un leadership positif et contagieux.
Pourquoi cette cible-là particulièrement ?
Parce qu'en fait, le leader, il va... C'est vraiment... on est tous leaders de sa vie. On est tous leaders de sa vie. Donc, tu peux, en tant que maman, t'es déjà un leader.
Comme quelqu'un.
En tant que parent, t'es un leader.
On est tous capitaine à bord de notre vie.
Exactement. Spider-Man, il dit, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.
Ouais.
Yes. Donc, en fait, c'est prendre le pouvoir sur soi. Et pourquoi ma cible, c'est plutôt les dirigeants, les managers et les entrepreneurs, c'est que c'est eux qui vont guider sur le projet. Et pourquoi développer un leadership positif et contagieux ? C'est que pour être influent, il faut qu'il soit inspirant.
C'est vrai. Ça paraît bête, mais c'est tout à fait ça.
Donc en fait, muscler l'optimisme et l'audace pour adopter cette posture de leadership positif et contagieux, je trouve que c'est important dans les entreprises. Parce que le manager dans une équipe, en fait, il a une grosse charge à porter, en fait. Il faut qu'il impulse.
Oui.
Donc il faut qu'il soit en énergie.
Et c'est encore mieux si cette énergie est positive.
Voilà. Il faut qu'il soit en énergie. Il faut qu'il transmette quelque chose de puissant à toute l'équipe pour que l'équipe ait envie d'y aller. Parce qu'on est dans une réalité qui est un peu compliquée en ce moment avec la crise sanitaire, etc.
Oui, surtout maintenant. Oui.
Je vis quand même dans la réalité. Hein. Je ne suis pas un bisounours.
Bien sûr, madame la sphérologue.
Mais en fait, voilà.
Votre projet est tout à fait construit.
Cette énergie positive, en fait, c'est pas forcément simple de la garder au quotidien. Donc, pour piloter une équipe et la guider, pour être inspirant et inspirer un climat de confiance aussi, travailler son optimisme et l'audace, ça demande une sacrée énergie. Et ça peut... si on n'arrive pas à prendre ce recul en tant que manager, on peut commencer aussi à faire de la charge mentale et de la charge émotionnelle. Et apprendre à réguler cette charge mentale et cette charge émotionnelle pour soi... Ça permet aussi de comprendre que notre entourage, nos équipes, peuvent aussi avoir cette charge-là. Donc si on sait le réguler pour soi, on peut accompagner les autres à réguler leur charge émotionnelle.
Alors, dans ce que tu dis, je crois comprendre aussi quelque chose d'intéressant. Tu sais, moi, je fais du RH, hein, donc ça résonne.
Ça fait ding, 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 ding.
Là, je me dis, une idée, comment t'as dit, une idée popcorn, là. Donc, ouais, je viens d'en avoir une, là.
Oh, super, j'adore. Popcorn.
Alors, de ce que tu viens de me dire, effectivement, ta cible, ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des managers. Tu sais, on parle beaucoup actuellement, si on parle encore de l'actualité, on parle beaucoup des entreprises qui aujourd'hui peinent à recruter. C'est un gros problème, ils n'arrivent pas à attirer. Tu l'as dit, hein, sourire, attractivité, ça permet de fidéliser, etc. C'est exactement des mots qu'on peut transposer dans une stratégie RH. Comment faire pour attirer, pour donner envie, pour séduire. Et c'est vraiment le gros sujet du moment. Je suis en train de me dire que...